Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Hakimi en retrait avec Barasquelia, et c'est dedans, et ça fait 5, Chelsea a explosé, Barasquelia a fait exploser Chelsea.
Georges Quirino.
Journée spéciale PSG Arsenal dans moins de 8 heures, le coup d'envoi, et évidemment on va tout vous raconter sur RMC jusqu'au début de cette rencontre, et même après d'ailleurs, l'after jusqu'à très tard ce soir. Vous ne raterez rien sur notre antenne. La première heure des grandes gueules du sport à retrouver en podcast. On a déjà largement parlé de cette finale de la Ligue des Champions sur toutes les plateformes. Vous pouvez retrouver cette première heure en fin d'émission. Participez au jeu du sport avec vos GG ce week-end. Remportez votre enceinte portable Tamo de Lexon, une mini enceinte Bluetooth connectable à l'infini. Pour remporter votre enceinte portable Lexon, appelez le 3216 touche 4, envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. On est toujours avec Christophe Cessieux, avec Pascal Duprat, Denis Charvet, Jérôme Pinault. Dans un instant, tiens, la punchline de Luis Enrique. Dans cette finale, je ne pense pas qu'il y ait de favori, nous dit Luis. Est-ce vraiment du 50-50? On va aller au plus près des Parisiens tout de suite à Budapest. Arthur Perrault est devant l'hôtel du PSG. Salut Arthur.
Salut les GG, bonjour à toutes et à tous.
Bon, raconte nous d'ailleurs, il y a du monde devant l'hôtel du PSG, il y a des
supporters. Quelques curieux, une petite vingtaine de personnes, alors que le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a quitté l'hôtel il y a de ça, un petit quart d'heure, en tenue de sport pour aller faire sa séance de paddle matinale, il en a l'habitude. Petite séance de paddle pour le président du PSG. Les joueurs, eux, viennent de terminer le petit déjeuner donc à cet hôtel New York Palace en plein centre de Budapest. Une ultime séance vidéo, moment d'échange avec le staff est prévu là dans les minutes à venir aux alentours de 11h. Le déjeuner, lui, aura lieu à 13h avant la traditionnelle sieste qui est minutieusement respectée par l'ensemble du groupe parisien. Et ensuite, le départ du bus pour le stade qui est prévu à 15h55, 16h, sachant que l'hôtel n'est pas loin du tout. De la Puskás Arena, il y a environ 9 minutes de route pour le quart. C'est évidemment, comme d'habitude, au dernier moment, que la composition d'équipe sera annoncée par Luis Enrique à ses hommes. Là aussi, on ne change pas les bonnes habitudes du côté du Paris Saint-Germain.
À 10h11, Warren Zaïre-Emery n'est toujours pas titulaire. On part toujours sur les 10 joueurs de champ comme lors de la dernière finale.
Toujours la tendance. Évidemment, si c'est amené à évoluer, on vous préviendra avec Fabrice Hawkins. Mais oui, la tendance est à ce que ce soit Achraf Hakimi qui débute sur le côté droit de la défense parisienne. Et au milieu de terrain, le retour du trio titulaire lors de la dernière finale de Ligue des Champions. João Neves, Vitinha et Fabián Ruiz. Cela reste bien la tendance à l'heure actuelle, Jean.
Merci beaucoup, Arthur. On te retrouve tout au long de la journée, évidemment, avant ce PSG Arsenal 18h. Moi, un jour de finale. Si j'ai pas mon petit programme pour savoir à quelle heure est la collation, la sieste et tout.
Ah ouais,
j'ai besoin de mes repères, tu vois. J'ai besoin de mes repères.
Un manque de confiance, toi.
On va en parler tout à l'heure dans le vestiaire.
Quelle heure tu vas faire la sieste? C'est important la sieste au final.
Ah bah oui, bien sûr. Bon, toi t'arrives pas à dormir.
C'est la sieste, ouais.
Avec, à 18h, c'est compliqué. Faut pas se lever trop tard de la sieste. Faut qu'elle soit courte.
On va en parler tout à l'heure dans le vestiaire, la gestion d'une finale, justement. Comment on arrive à gérer tout ça dans l'approche. Mais d'abord, sur le ring, les amis, à Roland Garros. Certains d'entre vous, la semaine dernière, m'ont dit qu'il n'y avait pas de suspense.
RMC, le ring des GG.
Trois balles de match.
Face à l'Argentin, Juan Manuel Cerundolo.
Il y a 5-1 dans cette dernière manche. Le service de Yannick Sinner qui va essayer de faire une amortie. Cerundolo qui va monter. C'est fini. Yannick Sinner est éliminé.
C'est affreux, c'est terrible ce que vient de vivre le tournoi
de Roland Garros. Blessé dans le troisième set alors qu'il menait 2-7-0, 5-1. Yannick Sinner blessé, complètement à bout et battu par Cerundolo. Yannick Sinner est éliminé de Roland Garros. C'est un coup de tonnerre.
35 donc Fonseca dans cette cinquième manche avec une première de sur le revers. Amorti va y aller, Djokovic va y aller. Il sait que c'est important, il va se faire prendre le lob. Et le lob est gagnant parce que Novak n'a plus les jambes pour sauter. 45, événement peut-être historique dans quelques secondes. Djokovic, au lendemain de l'élimination de Sinner, il va peut-être sauter à son tour. Attention. Et c'est pas vrai, 3 aces affinés. Joao Fonseca sort, Djokovic en 5-7, c'est énorme. Énorme victoire de Fonseca, d'un champion qui vient de naître sous nos yeux. Joao Fonseca qui sort Novak Djokovic en 5 manches. Énorme match, énorme émotion. Djokovic est tombé sur plus fort que lui et surtout plus jeune.
Quelle semaine on a vécu à Roland-Garros alors qu'Alcaraz et Fils ont dû renoncer avant même le début du tournoi. La semaine écoulée sous une chaleur caniculaire a mis au tapis le grand favori Yannick Sinner autour de Djokovic hier de prendre la porte après une lutte homérique en 5-7 en 4h53 face au jeune Brésilien Jean Fonseca de 20 ans, son cadet. Zverev est venu à bout de Quentin Alice en 4-7 hier soir et lui est toujours là, mais il y aura un vainqueur inédit en grand chelem à Roland-Garros et ça c'est déjà un énorme événement. Les GG, je vous pose la question sur le ring. Les favoris au tapis à Roland, est-ce génial ou frustrant? J'ai un frustrant, c'est Denis, et j'ai trois génial, trois géniaux. Pascal, Chris et Jérôme sur le compte X des Grandes Gueules du Sport, vous dites c'est génial à 64% donc de voir eh bien, ce Roland-Garros actuellement avec les favoris au tapis. Vous venez au 32-16 évidemment et sur WhatsApp au 06 12 424 424. J'accueille Sarah Pitkowski, notre consultante tennis et Grandes Gueules du Sport en studio. Salut Sarah. Bon.
Mais j'ai oublié, je suis un peu fatiguée. Bonjour à tous, bonjour les garçons.
Salut Eric Salio, notre voix du tennis sur RMC.
Salut les grandes gueules.
Tiens, rapidement, juste génial ou frustrant sur Roland-Garros, Sarah?
Oh bah génial, mais alors pas génial parce que les têtes de série sont au tapis, génial parce que c'est totalement indécis.
Bah alors, c'est pas le débat. Alors moi, je réponds génial. Alors. Ouais. Mais non, mais c'est notre débat.
Eric Salio,
t'es le roi.
Mais non, mais si elle dit ça, c'est que c'est génial, évidemment. Mais non, mais quand même, pas du tout.
Non.
Je suis d'accord avec Denis. Pour moi, c'est frustrant. Alors.
Eric Salio, génial ou frustrant?
Moi, j'adore toutes les formes de chaos, donc c'est absolument génial.
Bon, attends, ben tiens, Denis, on va commencer par toi. Pourquoi t'as dit naturellement dit frustrant?
Comment ça peut être génial quand Sinner est le meilleur joueur au monde aujourd'hui, quand Djoko, qui est la légende du tennis, en sort du tournoi? Mais moi, c'est Djoko hier, je pleurais quand je le vois perdre, moi, hier soir, même si le match c'était
fabuleux. Oui, mais c'est la beauté du sport.
On répond par rapport à la suite. Oui. Par rapport à la suite, pour moi, c'est frustrant parce que j'aurais adoré voir Djoko aller en finale.
Oui, mais
voir Djoko gagner. Et que là, ma frustration, elle est là. C'est
oui,
tout.
Mais parce que, tu poses ton supporterisme sur
mais
quelqu'un.
Pas que moi, parce que
mais quand tu vois le scénario, il perd à la régulière.
On s'en fout du scénario.
Il perd contre une nouvelle génération. Il y a un moment, il y a toujours des passages de témoins.
Il n'y a pas de problème.
C'est un amoureux du sport et il aime que les choses ne bougent pas.
Non, pas du tout, pas du tout. Mais non. Mais pas du tout. Non, mais pas du tout. Sarah, le problème, quand même, il y a une donnée qui n'est pas à prendre en compte. C'est sûrement le dernier Roland-Garros de Djoko. On ne verra peut-être jamais Djoko à Roland. Et vous, ça vous fait rire.
C'est
peut-être la dernière saison, j'ai du sport. Et alors,
j'espère,
mais il faut tourner, quoi.
Je ne
faut
changer. Plus.
C'était le dernier de Gaël Monfils, ça se dit.
Djoko, d'ailleurs, la question lui a été posée hier. Eric, il a dit je ne sais pas si je reviendrai à Paris, mais je crois qu'il avait dit plus ou moins la même chose l'année dernière.
Moi, je ne sais pas. Là, il va avoir 40 ans, mais bon.
Moi, je trouve. C'est vrai que je pense qu'on a été mal habitué. C'est-à-dire que pendant 20 ans, on a eu les trois mêmes qui ont tout gagné. Sur 81 tournois du Grand Chelem, 66 sont revenus aux trois grands. Et après la fin de Federer, de Nadal et la baisse de rythme de Djokovic, on s'est dit peut-être on va avoir un peu plus de changement, on va avoir un peu plus de diversité. Et ben manque de bol, ils sont arrivés les deux et n'ont rien laissé, plus rien laissé à l'adversité. Du coup, quand il en manque un, on se dit ah là là, mais quelle catastrophe, comment on va faire? On va devoir découvrir d'autres joueurs. Denis, mais je vais pas pouvoir voir mon Djokovic, je vais pas pouvoir voir mon Nadal ni mon Alcaraz, mais c'est génial de pouvoir voir des Fonseca, des Jodar, des Kwame qui vont créer leur histoire, qui vont nous faire rentrer, mais si tu dis le contraire, qui vont nous faire rentrer dans leur histoire. C'est bien de découvrir d'autres champions quand même, de pas tourner sur les cinq mêmes depuis 20 ans.
D'accord.
Sors de là, Denis, essaie de t'ouvrir au monde.
Mais les cachets, ils sont où les cachets de Christophe? Parce que là quand même, on avait décidé qu'ils sortiraient du studio à 9h30, mais bon, il est encore là.
Eric Salio, tu voulais rajouter un truc?
Non, mais je comprends un peu ce que veut dire Denis, parce que c'est vrai qu'il faut se frotter les yeux quand tu regardes le haut de tableau. Dans le haut de tableau, il y a quasiment plus personne. Hier, on faisait le podcast avec Sarah, on s'est rendu compte et on a dû s'y reprendre à plusieurs fois. Il reste plus que deux top 10 dans le tableau, et incroyable. Des mecs qui ont fait des finales de Chelem, il y en a que trois. C'est Rude, c'est Berrettini et c'est Zverev. Mais les autres, mais au petit déj ce matin, ils doivent se dire. c'est mon tour, c'est la chance de ma vie. Et c'est en ça que c'est génial, et c'est en ça qu'on va voir des défaillances, parce qu'il y a des mecs, ils vont pas tenir la pression, tu vois. Et peut-être même que Zverev ne tiendra pas la pression, parce que là, il a une énorme pancarte dans le dos. Et moi, je suis curieux de savoir comment il va gérer tout ça. Et c'est pour ça que cette fin de tournoi va être absolument exceptionnelle. On aura peut-être une finale entre l'Andalous et je sais pas qui, donc. Non, mais c'est vrai, l'Andalous contre Ronda. Allez hop, génial.
Encore l'Espagnol. Non, mais Pascal, toi, il t'excite sur Roland Garros, plus maintenant avec l'élimination des favoris?
Non, en fait, avec le recul et avec beaucoup de discernement, la nuit porte conseil. Parce que hier, j'étais en colère quand Djoko a perdu.
Et parce que tu le quittes.
Parce que je suis supporter à fond. Oui. Voilà, donc, à partir de là, j'étais frustré. Mais très vite, j'ai dû reconnaître que le jeune Brésilien, bon, il a tenté sa chance, il est mené 2-0. Franchement, il faut qu'il ait des sacrés coronets pour revenir. Et ça, on doit lui accorder ce mérite-là. Donc, en cela, bah, tout d'un coup, je bascule sur... je suis excité, j'ai envie de connaître le dénouement. J'espère franchement que Zverev, même si je suis pas un super supporter du garçon, j'espère qu'il va saisir sa chance.
C'est quoi, t'aimes bien l'histoire du maudit qui arrive enfin. Je t'accroche à cette nouvelle histoire maintenant.
Mais ouais, je me dis, mais bon, je suis un loser, mais voilà pas que j'ai la chance, un signe, là, qui me tend les bras.
Pascal, le problème, c'est Zverev. On parle de génial, de là à dire que c'est génial, non. Moi, les belles histoires, je les aime. Tout ce qui m'arrive va m'exciter à regarder, mais pas de dire que c'est génial.
Non, mais Denis, le temps passe pour nous. Tu le sais. Et donc, fatalement, il faut qu'on prenne ça avec beaucoup de discernement.
Oui,
on va laisser notre place petit à petit. C'est déjà fait presque. OK? Donc, c'est comme ça.
Mais
c'est
moi, je n'ai pas envie de voir pareil, Djoko.
Mais l'être humain a besoin d'être rassuré. Donc, il veut se rassurer à quelque chose qu'il connaît. On sait que le sport nous apporte des émotions. Donc, en fait, on veut prendre les émotions, mais on veut qu'à la fin, on connaisse celui qui va gagner. En l'occurrence, Djokovic hier.
Oui,
on aurait aimé que ça finisse en 5-7, en apothéose, et que le grand Djoko, eh bien, il arrive à faire quelque chose d'extraordinaire.
Ce qui est marrant, c'est que naturellement, dans le commentaire sur l'élimination de Sinner, tu dis c'est affreux pour Roland Garros.
En fait, non, c'est affreux pour Roland Garros parce qu'en fait, il perd pas sur le terrain.
Il
perd par le facteur X, qui est aujourd'hui sa plus grande faiblesse. C'est-à-dire aujourd'hui quelque chose qu'il n'arrive pas à maîtriser, c'est la chaleur étouffante qui fait que son cerveau ne fonctionne plus, son corps ne fonctionne plus, et qu'il a essayé de jouer. Il faut savoir que Sinner a fait croire, et on est tous tombés dans le panneau. Il a fait croire qu'il s'était blessé. Ouais. Parce que sinon, il ne peut pas sortir du court pour se faire soigner. Donc en fait, il a essayé de jouer avec la règle, comme il a essayé de jouer avec la règle à l'Open d'Australie. Mais il y a une vraie défaillance.
Il faut lui faire un grand chelem au Groenland pour notre ami Sinner. Enfin,
mais ça,
il sera plus à l'aise. Juste pour les quelques stats concernant Zverev, qui aujourd'hui est quand même le favori numéro 1 en termes de classement, d'abord parce qu'il est 3e mondial, 3e tête de série. Et il a disputé 40 tournois du Grand Chelem depuis 2015. Aucune victoire.
Oui.
7 demi-finales disputées, 3 finales disputées, 3 finales perdues face à Sinner et Alcaraz, mais aussi face à Dominic Thiem. C'est-à-dire que même en dehors de Sinner et Alcaraz, il a eu la chance face à Thiem et il l'a laissé passer. Est-ce qu'il ne peut pas lui arriver, encore une fois, de passer à côté?
J'ai envie de te dire, on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'effectivement, on ne sait pas comment il va réagir sous le coup de la pression, parce qu'il a toujours été un outsider. Et là, il est en posture d'être le grand favori. Donc, on ne sait pas comment il va gérer ça. Et puis, il y a un autre facteur, c'est que on a vécu à plus de 40 dans une fournaise et qu'à partir de demain, ça va chuter.
Et 16 degrés à Roland,
donc en fait,
mercredi.
Tout va se rééquilibrer en fait.
Sur Roland Garros, c'est-il génial ou frustrant? Vous venez au 32-16, Jérôme. Plutôt génial pour toi?
Ouais, alors je vais faire très court parce que les grands plient face aux conditions extérieures. Et moi, j'ai trouvé génial qu'un mec comme Sinner, il plie parce qu'il a trop chaud.
Parce que
c'est des choses qu'on ne peut pas trop prévoir et parce qu'on a tous chez nous. Chez tous les grands athlètes et chez les grands champions comme ils sont, un point de faiblesse où tu peux, t'as beau être le plus fort, t'as beau être préparé, il y a un élément extérieur
pourtant,
que tu
Jérôme,
maîtrises pas
et pourtant. Et pourtant, par rapport à d'autres sports,
on les met dans
des conditions de confort incroyables. C'est-à-dire qu'ils ont le moins de petits bêtes de travers. Ils peuvent aller se faire soigner, ils peuvent revenir.
Tu sais, il y a beaucoup la fameuse phrase à Roland, quand il pleut, on tire la... Non, là, je peux te dire que jouer au tennis, je fais un peu de sport en ce moment et je peux te dire que...
J'ai joué au tennis, moi, mardi dernier par 40, j'avais défaillir.
Exactement, c'est un exploit incroyable.
La comparaison de Chris qui joue.
Il faut même faire de la prévention qu'il n'y a que des grands champions qui peuvent jouer à ce niveau-là sur un court en ce moment. Parce que ce qu'ils font là, aujourd'hui, Sabalenka joue à midi et demi. c'est à midi et demi, je vous promets, dites à vos copains, venez, on va jouer au tennis. Ils vont me dire non, on y va pas. Donc, c'est ça l'exploit. Et ce qui est génial, c'est que ces conditions extérieures-là permettent de trouver un suspense là où, normalement, s'il fait 20 degrés, il n'y a pas de suspense. Eric, c'est ça que je trouve génial.
Eric, sur les conditions de la semaine notamment, est-ce que ça a vraiment eu une influence sur les résultats?
Évidemment, mais il y a eu une petite polémique avec Djokovic qui a pris l'exemple sur l'Open d'Australie où quand c'était trop chaud, on arrêtait tout. Mais là, l'indice qui est calculé à Paris, il est biaisé parce qu'il n'y a aucune humidité à Paris. Donc, on aurait pu jouer peut-être même à 40 degrés qu'ils auraient laissé les joueurs sur le court. Donc, peut-être qu'il faut revoir le règlement. On a plein de cours, on a des éclairages. Ouais. Des lumières, donc peut-être qu'effectivement, il y a un moment, il fallait faire une pause.
Sauf finir les matchs. Les vainqueurs font face à des vainqueurs. Il y a les mecs qui s'adaptent et d'autres pas. Il y en a qui coincent.
Je suis d'accord avec toi.
Et ça donne la chance à peut-être des mecs qui sont peut-être moins doués, mais qui supportent un peu la chaleur. Ça fait partie du sport.
Est-ce qu'un Tour de France avec Pogacar et Vingegaard qui craqueraient sous la chaleur,
c'est un Tour de France génial derrière. Pogacar a perdu le Tour de France face à Vingegaard sur une semaine de montagne sous la grosse chaleur. Vingegaard était mieux préparé, ça a payé.
Nibali a gagné un Tour de France avec Froome et Contador qui ont chuté.
Contador tombe, Froome tombe sur les pavés humides. Enfin, ça fait partie.
Nibali a gagné
du sport.
Personne met un astérisque sur l'acteur Nibali.
Exactement. C'est quand tout le monde est à 100%. Là, on met Alcaraz à part, il est blessé. Mais ils étaient à 100%. Il y a des choses extérieures.
Ils sont tous identiques sur la ligne de départ. C'est-à-dire que les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Alors on peut dire oui, mais alors pourquoi? C'est les polémiques. Pourquoi Yannick Sinner n'a pas demandé à jouer en night session?
Oui, parce qu'en plus, c'est une demande de sa part de jouer
en première. Il faut savoir comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a la direction du tournoi qui va faire son programme idéal. Son programme idéal, il est fait en fonction du public et en fonction des diffuseurs, du territoire et du continent sur lequel tu es. Parce qu'effectivement, quand tu as Outre-Atlantique où on paye des millions et des millions, aujourd'hui, pourquoi Ogier Aliassime est en night session? Parce qu'on a un Canadien et que Outre-Atlantique, il est intéressant pour les télés américaines et canadiennes. Donc en fait, ils font un programme idéal et après, ils vont voir les staffs. Ils vont pas voir les joueurs directement, ils vont voir les staffs. Ils leur posent la question en disant, est-ce que tu veux jouer en ouverture le dimanche? Est-ce que tu veux jouer à midi? Est-ce que ça te convient? Et le staff de Yannick Sinner a dit, allons-y en premier, comme ça, il aura plus de récup.
Il fait moins chaud, effectivement. Enfin, on a vérifié les températures lors du match de Sinner. Il faisait moins chaud entre midi et 15h.
C'est pour ça que Sabalenka,
ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il s'est retrouvé piégé, Sinner. C'est qu'il a eu la première night session. Donc, il y a une sorte d'alternance pour les stars. Et il savait pertinemment que son deuxième tour, il le jouerait en day session. Et c'est là, Sarah a raison, que le staff a dit, on est obligé d'y aller, alors mets-nous à midi, ça nous arrange.
Et ce qui est dingue, c'est qu'avec le niveau de professionnalisme du staff, notamment de Sinner, hein, qui est un staff quand même qui est pointu sur la préparation, ils savent pas que le mec, il va planter quand il fait chaud, quoi.
Ouais, mais ils ont tenté quelque chose. Voilà,
il fait moins chaud entre midi et 3h.
Tu tentes pas, tu sais.
Il mène 2-7-0, il a 5-1. Il n'y a pas de match. C'est-à-dire que même avec une petite défaillance à 5-1, je n'arrive pas à l'expliquer. Il a 3 breaks d'avance. Je veux dire, même si tu as un petit peu un coup de chaud, t'es à 5-1.
T'as déjà fait une installation une demi-heure avant, tout va bien.
Oui.
Eric, c'est le dernier jour de grand choix Roland Garros aujourd'hui, quel est le programme?
Le programme, le grand moment, c'est Maurice Coimet, bien sûr, qui jouera donc sur le cours Suzanne Lenglen en milieu d'après-midi contre le Chilien Tabilo. Et puis, on va surveiller aussi les deux favoris de cette partie de tableau, à savoir Félix Auger-Aliassime, qui jouera en night session. Puis encore des mecs qui peuvent y croire. Je pense à des Frances Tiafoe, l'Italien Coboli, et puis l'autre Frangin Cirundolo, qui doit se dire que moi, dans ma partie de tableau, je peux aller très très loin. Donc,
Pourquoi Coimé ne joue pas sur le central, par exemple?
Pareil, c'est peut-être quelque chose qui a été vu avec son staff. Le Châtrier, les particuliers, il y a beaucoup de recul. Peut-être que le Suzanne Lenglen lui convient. Après, il va falloir choisir entre le PSG et
c'est ça. C'est ça que je trouve dommage. Ce garçon, qui est un fan absolu du Paris Saint-Germain, la programmation de Roland Garros et France Télévisions ont décidé de le mettre face au PSG. Donc, lui, il est frustré. Nous,
on est frustré parce que moi j'aurais bien aimé voir à la fois le match de tennis et le match du PSG.
Moi j'ai regardé le match de tennis, arrête de nous raconter.
Ouais, ça peut commencer à 15h, Christophe. Ça peut commencer à 15h et tu verras les deux, t'inquiète pas.
Hein. Et puis on est au 21e siècle, hein, les doubles écrans ça existe.
Il y a l'iPad et la télé,
la radio.
La radio sur RMC. Oui, parce que ça peut commencer à 15h. Il y a deux matchs féminins avant, ça peut aller vite. Peut-être pour.
Tu parles des pattes, Christophe, j'ai pas compris.
Tu parles de quoi?
Des pattes.
L'iPad.
Dernier tour de table, juste très rapidement, en un mot. Qui va gagner Roland Garros chez les hommes? Sarah.
Moi, je mets une pièce sur Zverev quand même.
Eric.
Tous au Zverev. Je pense qu'il va pas aller au bout. Je saurais pas dire qui va gagner, mais je pense qu'il ira pas au bout.
Mais dis-moi un nom quand même.
Non, mais c'est une belle cote. Tous au Zverev.
Denis.
Zverev.
Jérôme. Fonseca.
Christophe.
Fonseca. Mais t'as le droit de faire pareil, Pascal.
Zverev.
Fonseca aussi, moi je dirais. Allez,
bah, s'il joue comme ça à chaque match.
Fonseca peut rappeler un certain Gustavo Kuerten.
Oui. On se retrouve à 11h30. Sarah et Eric pour parler de Moïse Kouamé. Est-ce qu'il a tout déjà du sauveur du tennis français? Résultat du sondage pour vous. Roland Garros est génial à 64%. Allez, on revient dans un instant. On va reparler de la finale avec des champions entre le PSG et Arsenal. Est-ce que c'est vraiment du 50-50, comme le dit Lucien Riquet? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Il a mêlé à l'entrée de la surface, le crochet, allez. Il va décaler à gauche, peut-être à Kimino, il ajoute tout ça.
Oui,
il est
frappé. Georges Kimino.
Finale de la Ligue des Champions à 18h, PSG Arsenal à Budapest, RMC est sur place et vous ne raterez rien évidemment. Dans un instant, le j'y crois pas. RMC est aussi à Oklahoma City aux États-Unis où Wemby joue un match décisif la nuit prochaine pour se qualifier en finale NBA. C'est à 2h du matin. Hein. Les grandes gueules du sport vont veiller cette nuit, je vous le dis, pour regarder le match 7 face à Oklahoma pour savoir si Victor Wembanyama, à 22 ans, va se qualifier en finale NBA. Mais d'abord, finale de la Ligue des Champions. Donc, qui est favori entre Paris et Arsenal? Punchline. Signé Luis Enrique.
RMC, la punchline GG.
Si on parle de les finales, c'est toujours difficile. L'année dernière, ça a été une exception. Je pense qu'on a eu une supériorité que ce n'est pas la vraie, ce n'est pas la réelle entre les Paris Saint-Germain et les Inter. Mais le football, c'est comme ça. Et dans cette finale, je ne pense qu'il y a un favori. Je le dis honnêtement. Mais ce que c'est clair, c'est de profiter les petits détails, c'est profiter les choses qui peuvent être importantes. Et savoir être dans les matchs dans les 90 minutes et chercher à profiter.
Profiter, et je ne pense pas qu'il y ait de favoris dans cette finale. Pendant que Mikel Arteta a dit il y a quelques jours, on va être champion d'Europe. Hein, très clairement pour motiver les supporters et ses joueurs. GG, je vous pose une question très simple. Est-ce que c'est vraiment du 50-50, Jérôme Pino, cette finale de la Ligue des Champions? Est-ce qu'elle est si disputée que le dit Luis Enrique, ou c'est de la com?
C'est pas du 50-50.
Pourquoi?
Je pense que le PSG est supérieur. Mais sur une finale comme celle-ci, le Arsenal va leur faire beaucoup de mal. Mais si le Paris Saint-Germain arrive, tout à l'heure, on en a parlé, et Pascal l'a dit, ça peut, il n'y aura pas 5 buts. Et après, tout de suite, quoique. Parce qu'avec cette équipe du Paris Saint-Germain, ils sont imprévisibles. Et quand ils déroulent, ça peut aller très vite. Maintenant, on a l'impression que Arsenal a les armes pour lutter. Je reste persuadé que le titre de champion d'Angleterre pour cette équipe-là est plus important que la Ligue des Champions et qu'il peut y avoir une certaine décompression. Pour moi, c'est.
On rappelle, ils attendaient ça depuis 22 ans. Ouais. Hein,
pour moi, c'est plus du 60-40 que du 50-50. Mais voilà, ça ne veut pas dire que quand on est favori, on va gagner. C'est ça le problème. Est-ce qu'ils vont gagner? J'en sais rien. Est-ce que le Paris Saint-Germain est largement et légèrement favori? Oui, selon moi, avec une Ligue 1 qu'ils ont remportée encore cette année, avec l'expérience de la finale de l'an dernier. Et puis, très sincèrement, pour le supporter de Marseille que je suis, ça me fait mal de le dire, mais j'ai l'impression que cette équipe est invincible. Qu'ils peuvent tous passer. Et on l'a vu face au Bayern. Ils peuvent être dans des situations très compliquées. Luis Enrique a fait de cette équipe une équipe très solidaire avec des joueurs qui vont se mettre à plat ventre pour les autres. Un collectif très soudé. Et avec tout ça, on gagne des titres. Et
bah, t'es trop impressionné par ce collectif, en fait, pour les imaginer.
Aujourd'hui, si tu veux, pour moi, je vois le PSG comme pouvait l'être l'équipe d'Allemagne d'antan, comme imbattable, quoi. Il peut tout se passer, ils vont gagner quand même.
Ouais, alors, ils ont perdu la finale de la Coupe du Monde des clubs, on rappelle, l'été dernier.
Face à, face à Chelsea.
Oui, hein, mais ça venait au bout de toute une saison.
Exactement.
Ils avaient
mais malgré tout, des conditions difficiles. Il peut se passer plein de choses. Cette équipe finit toujours par gagner. Et ça, c'est, ça fait deux, pour moi, aujourd'hui, le favori de la finale.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une petite musique, alors d'ailleurs pas que en France, hein, mais dans cette idée que bah, Paris va gagner, Paris est trop invincible. Est-ce que Paris n'est pas trop favori, peut-être dans la tête des spécialistes avant cette finale, je sais pas, Christophe.
Je pense que c'est surtout dans la tête des supporters parisiens, peut-être des médias français, parce qu'on les voit au quotidien, que cette équipe évidemment roule sur tout le monde depuis deux saisons.
À l'étranger aussi, Christophe, hein, franchement.
Peut-être qu'à l'étranger, mais quand tu regardes les cotes données par les différents maisons de sondage, on n'est pas à des écarts abyssaux. On est quasiment avec les mêmes cotes que l'année dernière avant la finale face à l'Inter. C'est-à-dire que le PSG est à, pour une victoire du PSG, on est entre 2,20 et 2,30 et une victoire d'Arsenal, c'est entre 3,30 et 3,50.
Mais c'est Christophe Payet en fait, c'est pas Christophe Cessieux.
Mais non, mais je me suis intéressé au truc pour voir, parce que Payet dit souvent des conneries, mais moi je suis allé voir vraiment.
Et le but de Désiré, il a combien?
Le but de Désiré, il a combien? Et c'était les mêmes. Les mêmes cotes l'année dernière face à l'Inter.
Je suis d'accord avec toi. L'année dernière face à l'Inter, il n'y avait pas non plus, on n'avait pas annoncé à 5-0. Hein.
Mais non, pas du tout.
Non mais Denis, c'est du 50-50 parce que c'est vrai qu'on on dit souvent une finale, il faut la jouer. Mais surtout, ça aplanit un petit peu justement les choses.
Il parle des supporters parisiens ou des bookmakers, mais c'est tout le monde entier qui a vu jouer cette équipe. Quand tu vois jouer cette équipe, tu parlais d'invincibilité, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il rien leur arriver. Pourquoi ? Parce qu'il y a une force collective qui est rarissime dans un sport de haut niveau. C'est-à-dire qu'elle roule pas sur tout le monde, mais
t'es pas l'impression.
T'es trop supporter du PSG.
Non,
là, c'est pas le supporter qui parle. Bah, et après, il y a quand même des joueurs exceptionnels devant qui n'ont pas le Arsenal. Je suis désolé. Tu changes qui ? Du PSG avec Arsenal devant.
Alors ça, c'est
personne.
Ça, c'est un vrai argument.
Et ça, c'est un vrai argument. Pourquoi ? Parce que parfois les matchs. Mais non, mais les matchs.
Tu vas pas te dire, ça, c'est un faux argument que je viens de donner.
Mais personne n'en parle.
C'est sûr. Non, mais c'est vrai.
Mais les joueurs, c'est des joueurs qui peuvent marquer à tout moment, alors qu'Arsenal, c'est des grands joueurs. Mais ils marquent pas à tout moment. Je suis désolé.
C'est-à-dire Gyökeres, Bukayo Saka, Martin Odegaard, par exemple.
Quand tu vois Varaskalia, il faut le tourner à chaque match. Tu te dis, ce mec, il peut marquer à tout moment. Tout moment, il a le ballon, tu peux marquer. Doué, n'en parlons pas. Et t'as Dembélé. Je sais pas, moi. Moi, je veux bien qu'on compare, qu'on dise pourquoi on est favori. Mais t'es favori parce que t'as
fait une meilleure équipe. Denis, t'as joué dans des équipes ultra dominantes qui ne se fatiguaient pas de la victoire. Est-ce que justement, quand t'abordes la finale.
Tu t'en lasses pas?
Parce qu'en fait, c'est ça qu'il peut y avoir. C'est alors, ne pas avoir la même envie, la même magie, le même truc dans le ventre. On va en parler tout à l'heure dans
la finale. Là où tu as raison, c'est comment ça nous est arrivé le Stade Toulousain. Au bout de la troisième année, c'est vrai qu'il y avait une espèce de lassitude dans les discours qui fait que
Parce que tu peux te dire,
comment te dire, naturellement, que tu passes un peu à côté.
Est-ce que là, c'est pas de se dire on a une marge?
Peut-être l'année prochaine, mais là je pense pas. Là je pense qu'ils sont encore dans.
Parce que les Parisiens ont encore faim.
Encore faim, ils le disent, et puis tu le vois sur le terrain. La vérité, tu vois le parcours en Champions League, c'est formidable. C'est-à-dire qu'ils ont jamais relâché un match.
Pascal, dans son narratif de la saison, Luis Enrique, il a dit dès le début, même dès la fin de la saison dernière. On a gagné, mais ce serait encore plus incroyable de gagner une deuxième fois. Il a construit ça dans la tête de ses joueurs. Ça joue, tu penses aussi, comment ils ont construit leur saison mentalement et dans la motivation aussi.
Le fait d'avoir gagné une première Ligue des Champions en roulant sur tout le monde, fatalement, ça leur a donné des idées. Pourquoi pas une seconde année? D'autant que l'effectif n'a pas beaucoup bougé. Luis Enrique, c'est un maître en la matière. Il a la main sur le club au niveau sportif. Et ça, c'est absolument remarquable.
L'argument premier, c'est Luis Enrique pour toi. Sur le fait qu'il soit favori.
L'argument premier, c'est que le PSG a gagné la Ligue des Champions l'année dernière. La force de l'habitude se crée. Luis Enrique est le deuxième argument. Et puis après, il faut essayer de comparer. Si on prend les phases finales,
c'est pas les mêmes.
Arsenal n'a pas joué contre les mêmes équipes que PSG. PSG, c'est Chelsea, Liverpool, Bayern, pendant que Arsenal joue Olympiakos, Sporting de Lisbonne.
C'est pas pareil.
Et Atletico. Leverkusen,
oui, mais en championnat, ils jouent des grandes équipes toutes les semaines.
Pour Arsenal, zéro défaite en Ligue des Champions cette année, seulement 6 buts encaissés sur toute la compétition.
Premier de la saison régulière.
Est-ce que Arsenal a joué une attaque aussi impressionnante que celle du PSG
ou du Bayern.
Bayern. C'est tout. Maintenant, je vais parler du championnat. On pensait que le championnat était plié en février en Angleterre. Or, Arsenal, depuis, joue moins bien offensivement, est toujours aussi extrêmement hermétique défensivement, mais son jeu se délite malgré tout. Saka n'a pas toujours été blessé, n'a pas toujours été
même pas
extra.
Titulaire aussi.
Franchement, moi j'ai hâte d'y être comme vous.
Donc on va leur en mettre 5 ou 6 encore, c'est
non, ça qu'on parce que si là, moi j'aimerais répondre simplement à la question. Impossible. C'est pas du 50-50.
Non.
Mais t'as beau être 80-20, alors c'est du français, t'as beau être spécialiste du foot ou pas. T'as beau être tout ce que tu veux, ça veut dire Paris Saint-Germain est favori.
Ben oui, ils sont favoris. Par contre, t'as oublié de dire qu'Arsenal avait battu le Bayern en phase de poule.
Oui, en phase de poule. Ils l'ont
fait. Et Paris, ouais. Dans un moment où Arsenal était dans une meilleure séquence, comme tu le disais.
Et on doit,
Pascal,
ce qu'on doit retenir aussi de ce duel dans la finale, c'est que, comme tu le dis, Pascal, moi, on n'est pas à l'abri d'avoir une domination assez large. Parce que depuis un petit moment, Arsenal galère un peu plus. Et surtout, Paris qui sort d'un titre, a fait une demi-finale en allant chercher des ressources quasiment qu'on n'imaginait pas pour battre le Bayern là-bas avec un match exceptionnel, que ce soit l'aller ou le retour.
Un match qui a impacté le monde entier.
Eux, ils restent sur un match à très très haut niveau pour aller chercher au-delà du physique. C'était psychologique cette victoire, ce que n'a pas fait Arsenal. Et dans la dynamique de groupe dans laquelle je crois énormément, il y a forcément cet avantage.
J'espère que les gens du Paris Saint-Germain n'écoutent pas l'émission ce matin, parce qu'à vous entendre, ils sont largement favoris.
Mais
ils vont faire qu'une bouchée d'Arsenal.
Favoris, ça ne veut pas dire qu'on les fait gagner.
Mais Christophe, moi, je serais ce soir absolument pas surpris qu'ils plient le match assez rapidement et que Paris gagne largement.
Ce qui est sûr, c'est qu'Arsenal veut maîtriser les débats tout le temps. Arsenal joue à son rythme, mais le Paris Saint-Germain, ils vont les bousculer comme d'habitude, ils vont aller les chercher. Ça va être plus difficile pour Arsenal que ça n'a jamais été.
Qui va avoir la possession de balle, tu penses, Arsenal ou Paris Saint-Germain?
Je pense Arsenal, mais je pense que PSG va les concasser. Je suis désolé.
Moi aussi. Moi, j'ai même ressenti.
PSG Arsenal, 18h, évidemment. C'est toujours la journée sur RMC.
Tu veux le score?
Le pari, ton pari que tu as fait?
2-0.
3-1. 3-1. N'oublie pas de le marquer ce soir. Hein. La semaine dernière, tu as oublié de le.
Allez, dans un instant, on va parler de la gestion d'une finale le vestiaire des grandes gueules du sport. Allez, on va aller à Oklahoma City aux États-Unis où Victor Wembanyama va tenter de se qualifier en finale NBA la nuit prochaine à 2h du matin. Fred Brice va nous rejoindre. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
La frappe d'Hakimi, elle est dévissée, c'est pas fini, Mayoulou. Oh, le but, mais c'est pas possible. Chaque tir cadré du PSG, ça fait but.
Georges Quilino.
Journée spéciale PSG Arsenal, 18h, finale de la Ligue des Champions sur RMC. Dans un instant, justement, dans le vestiaire avec Pascal Duprat, avec Jérôme Pinault, avec Denis Charvet, avec Christophe Cessieu. On va parler de comment on gère une finale. Mais tout de suite, hein, j'y crois pas, un peu spécial.
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois pas.
J'y crois pas. À l'heure US, à 2h du matin, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama se déplacent à Oklahoma City pour un match 7 décisif pour se qualifier en finale NBA et aller rejoindre les New York Knicks. Match 7, évidemment, il nous faut un consultant d'enfer. Fred Feiss nous rejoint. Salut Fred.
D'enfer, oui. Bonjour à tous.
Ouais, ça te va bien.
Ça va très très bien. Je suis content de voir cette tablée spécialiste extrême du basket.
C'est pour ça qu'on t'a appelé.
Hein. C'est peut-être plus prudent.
Tiens, avant de débattre dans un instant, RMC est sur place à OKC avec Félix Gabory. Félix, raconte-nous l'effervescence sur place avant un match. On sait un match 7, pas comme les autres. Hein.
Bien, j'ai fait le voyage depuis San Antonio et quand je suis arrivé hier soir à Oklahoma City, j'ai tout de suite été mis dans le bain en sortant de l'avion. Le premier panneau qu'on voit en entrant dans l'aéroport, c'est un message « Bienvenue à Oklahoma City, la maison des champions NBA 2025 ». Il t'annonce la couleur d'entrée en prenant soin de rappeler à tout le monde que les tenants du titre, c'est eux. Quand on arrive ici, on voit tout de suite que c'est une ville particulièrement chauvine et à fond derrière sa franchise NBA. Il suffit d'écouter comment les joueurs du Thunder ont été accueillis en pleine nuit à leur retour de San Antonio après le match 6. Ça fait du bruit, hein, ça tombe bien. C'est justement le surnom de cette ville, Loud City, la ville bruyante. Cette appellation, elle sera d'ailleurs présente sur les 18 000 t-shirts bleus qui vont être donnés aux fans la nuit prochaine pour le match. Ça promet un sacré effet visuel. Il faut dire que le public d'OKC a la recette pour faire gagner son équipe dans ces matchs couperets. La saison dernière, sur le chemin de leur titre de champion, ils ont gagné les deux matchs 7 qu'ils ont eu à disputer à domicile, dont celui en finale contre Indiana. C'est dire la tâche qui attend les Spurs et Victor Wembanyama. Le Français n'a encore jamais connu un tel rendez-vous rendez-vous dans sa carrière NBA, mais après la victoire dans le match 6, il a fait un parallèle avec tout ce qu'il a déjà connu depuis son enfance.
Aujourd'hui, gagner en NBA, c'est pas plus important pour moi que gagner en Benjamin Région à l'époque. La compétitivité, elle est toujours là de la même manière.
Et en termes de compétitivité, Wemby va être servi dans cette ambiance hostile ici à Oklahoma City.
Oklahoma City, merci Félix Gabory, RMC sur place pour le match 7 ce soir face à OKC. Tiens, très rapidement, tour de table, j'y crois pas. Est-ce que Wemby va se qualifier en finale NBA? Jean Pino.
Oui.
Denis Charvet.
J'ai envie d'y croire.
Christophe Cessieux.
Oui.
Pascal Dubras.
Je voudrais y croire, mais je vais dire non.
Attends, d'ailleurs, c'est quoi? C'est une stat qui te fait douter,
ouais,
c'est ça?
Terrible.
Vas-y, donne-la nous.
Ben en fait, j'y connais rien en basket. Hein. Et grâce à Fred, je m'y mets un peu plus. Surtout grâce à Wemby, je dois reconnaître.
Mais c'est les W qui te plaisent.
Mais aussi toi, Fred. Voilà, parce que c'est ce que tu dis sur le basket, c'est entraînant. Tu sais, depuis 1947, le bilan 52, 7e manche disputée, 41 victoires de l'équipe recevante, soit 78,8%. Et pour ce qui est de OKC, ils ont joué 3 septièmes manches et les ont gagnés à domicile. Les ont gagnés les 3.
Ouais, les matchs 7, voilà. Fou,
là, fou, on les gagne beaucoup à domicile. Je vais rajouter juste une statistique sur les 4 dernières fois où il y a un match 7. C'est toujours l'équipe qui était à l'extérieur qui gagnait. Donc sur les 4 dernières fois où il y a eu un match 7, c'est l'équipe qui était à l'extérieur qui a gagné.
Je l'avais donc, pas salué.
Mais bravo. Merci pour tes stats, hein, Pascal.
Non mais Fred, alors c'est vrai
mais
que.
Mais lui, il bosse, tu vois.
La preuve, ça sert à rien.
Non, mais si, ça va être intéressant.
Félix nous l'a un petit peu raconté. C'est un match 7 en plus à Oklahoma. C'est une des salles les plus chaudes de la ligue.
Bah, c'est une salle qui est très très chaude. C'est une salle où il n'y a pas grand chose, hein, dans l'Oklahoma, on va pas se mentir. Donc le basket, c'est quand même très important. Ça fait penser un peu à Limoges dans l'esprit où vraiment. Si tu as envie de voir du sport de très haut niveau, bah tu vas à la salle de basket. Donc oui, c'est très chaud. Oui, en plus ils sont champions, donc ils ont un cœur de faire ce qu'on appelle en basket un back to back, c'est-à-dire gagner deux fois de suite, ce qui est quand même assez rare dans le basket moderne. Donc oui, ça va être très très chaud, ça va être très très dur, évidemment.
Est-ce que le Wemby va le faire?
Wemby peut le faire parce qu'on a vu que c'est son équipe, alors pas que Wemby d'ailleurs, parce que son équipe a cette marge de progression, cette capacité à être une éponge, à apprendre de chaque match. Et à chaque fois qu'ils ont été mis en difficulté, chaque fois qu'ils ont été dos au mur, ce qui n'est pas arrivé si souvent que ça finalement, mais par exemple sur ce match 6 qu'ils auraient pu perdre à la maison et déjà finir cette série, ben ils ont répondu présent, ils ont même mis une rouste à Oklahoma. Donc j'ai envie de dire que oui, ils sont capables de le faire, mais en même temps, de l'autre côté, il y a la maîtrise du champion, il y a la maîtrise de ces matchs 7. Pascal l'a rappelé tout à l'heure, hein, sur les matchs 7, ils sont plutôt très très bons.
Moi, j'ai une autre question parce que j'ai bossé. Hein.
Oui, mais ça se voit. Je suis très, très fier de toi. Parce que...
En fait, j'ai aussi. Souvent, le match 7, ils sont tous cuits carbo. Apparemment, l'arbitrage à domicile, quelquefois, il influence. Vrai, faux, pour les lancers.
Alors, très objectivement, oui. Mais j'ai l'impression que sur le match 7, on a vu un arbitrage qui était bien plus raisonnable, où on a beaucoup plus laissé jouer. Et si ça laisse jouer, c'est plutôt à l'avantage de San Antonio parce que ça va empêcher chez Gilgeous Alexander, qui est le meilleur joueur d'Oklahoma,
d'avoir
des lancers francs et de marquer beaucoup de points. Donc, ça peut être une donnée intéressante.
Mais les Spurs ont gagné en parlant des playoffs là-bas. On est d'accord.
Le premier match.
Ils ont gagné le premier match.
Est-ce qu'ils vont s'en servir ou pas vraiment?
Non, pas vraiment, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'Oklahoma s'était débarrassé assez rapidement de leur confrontation précédente. Donc, ils se sont retrouvés avec un petit peu de mollesse, un petit peu de retour de compétition, ouais. Alors que San Antonio avait bataillé contre Minnesota. Donc, ils étaient plutôt sur la bonne dynamique. Donc, il faut vraiment tout reprendre à zéro. C'est un match vraiment couperé, très impressionnant. Nous, on adore ça au basket, les matchs 7, parce que il y a pas de vérité dans un match 7. C'est une vraie finale.
Ce que j'allais dire, Fred, il faut bien que les auditeurs auditrices qui peut-être prennent le train de la NBA là avec Victor Wembanyama et avec toi, donc Pascal, comprennent ce que c'est un match 7. C'est-à-dire que c'est au bout de 6 confrontations, c'est pas comme un match aller-retour en football. L'atmosphère et même ce qui se passe aux États-Unis autour d'un match 7, on voit pas dans aucun sport. En fait,
non, on le voit pas parce que effectivement les deux équipes sont égalisés maintenant. Donc c'est-à-dire que les équipes se connaissent par cœur. Maintenant, ça va jouer sur des petits détails, ça va jouer sur plein de petites choses.
Mais c'est quoi, tu mets plus de coups dans un match 7
En fait, c'est plus à l'énergie, parce qu'encore une fois, tu connais tellement bien l'équipe en face que tu sais quasiment les systèmes qu'ils vont faire. L'énergie, c'est l'envie, c'est la volonté qui va changer.
Que si Wemby met pas des paniers, ils n'ont aucune chance.
Mais oui,
on l'a vu.
Et je te rejoins, toi aussi, t'as bossé, d'ailleurs, je suis très fier de vous. Denis, je suis d'accord avec toi, et on l'a vu sur le match 6. On a vu que vu son match 5, il avait besoin d'attaquer directement le cercle, il l'a attaqué beaucoup plus, et c'est en ça que je dis qu'ils apprennent vite, qu'ils sont meilleurs à chaque fois, et pourquoi pas le faire.
C'est en ça que dans les stats, il parle, ok, mais quand t'as un mec comme ça en face, Fred, si quelque part Alexander ou lui, on l'a clé des matchs,
Chez Gilles, Alexander. Les deux patrons, c'est eux, évidemment, mais
qui c'est le meilleur joueur de la Ligue. Hein.
Du côté de Antonio, non, parce qu'Antonio,
en fait, ce qui se passe, c'est que du côté d'OKC, il y a Chez Gilles Alexander qui est le meilleur joueur de la Ligue.
Il fait pas une finale extraordinaire.
Non, c'est très dur, mais il faut se rendre compte aussi que deux joueurs majeurs manquent à OKC. Jalen Williams, qui est déclaré forfait, qui est son lieutenant normalement, qui apporte énormément, et AJ Mitchell, qui est un Belge, qui apporte aussi énormément. Les deux absents, il est obligé d'en faire plus. Et comme ça défend très sérieusement et très dur du côté de San Antonio, il fatigue un peu plus vite.
C'est difficile en tous les cas d'obtenir une vérité sur cette série. On a l'impression de temps en temps qu'une a pris vraiment l'avantage sur l'autre. Et le coup d'après, le match d'après, tout est remis à zéro. Ça se joue sur rien du tout.
Aucun match ne s'est ressemblé dans cette série. C'est assez incroyable. Et pour nous, pour déterminer qui va gagner, c'est quasiment impossible. Et pour paraphraser un grand coach, c'est 50-50 sur cette finale.
Et Shai Gilgeous-Alexander a dit est-ce que c'est l'adversaire le plus coriace que j'ai affronté? Oui, peut-être. Effectivement, ils sont clairement dans le haut du tableau. C'est-à-dire qu'il y a une considération aussi du Thunder, qui est le champion en titre de l'équipe de Wembanyama.
Et Fred, tu confirmes que autant OKC était attendu là, autant les Spurs, c'était pas forcément là qu'on les attendait.
On va pas se mentir, au début de saison, nous on disait s'ils font les playoffs, c'est déjà magnifique. Voilà. Et là, ils sont en finale de conférence, en poussant le champion en titre au match 7, donc c'est déjà extraordinaire.
Ils sont champions NBA derrière
contre les Knicks en finale.
Très difficile à dire. Il y a pas longtemps, je t'aurais dit oui, sauf que les Knicks sont on joue très très bien, joue très très dur. Ils sont en train de jouer un basket incroyable. Donc attention. Et puis il y a aussi l'effet Madison Square Garden.
Fred, t'attendais Wemby à ce niveau, sincèrement, cette année?
Alors, on savait qu'il serait très fort, mais en fait, pour nous, le révélateur, c'est les playoffs. Et sur les playoffs, il fait des playoffs fantastiques. À chaque fois qu'il se plante un petit peu, il se rattrape juste après.
C'est ça qui est juste incroyable.
Fred, il te reste quelques secondes pour me convaincre. Je vais parier sur deux back-to-back ce soir. PSG Oklahoma. J'ai tort?
Ben, je pense que t'as raison. Je pense que t'as raison parce que Oklahoma est légèrement favori quand même parce qu'ils sont à la maison et qu'ils connaissent le chemin.
Tu viens de nous dire qu'un gros coach disait 50-50. Ouais. En deux mots pour terminer, Fred, pourquoi il faut absolument veiller cette nuit pour le match 7?
Mais parce que c'est quelque chose d'extraordinaire dans notre sport, dans le basket. C'est un événement, c'est une vraie finale, c'est des équipes qui se connaissent par cœur. Ça va être tactiquement intéressant, ça va être en termes d'énergie intéressant, et surtout on a un Français qui joue à un niveau fantastique, qui est peut-être le meilleur joueur du monde actuellement, donc il faut évidemment regarder.
Moi je vais regarder mais je suis pas sûr d'être là demain matin non plus.
Merci beaucoup. Fred Bayes, on se retrouve demain. Évidemment tu seras autour de la table des grandes gueules du sport, du coup tu n'auras pas dormi, tu prendras la place de Christophe Cessieux qui ne sera pas là, hein, du coup on a bien compris. 2h du matin à San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, c'est le match 7. Le gagnant va en finale NBA face aux New York Knicks. Ça va être chaud, bouillant, comme la finale de la Ligue des Champions, 18h. PSG Arsenal. On continue à parler dans quelques instants comment on gère une finale dans le vestiaire. A tout de suite sur RMC dans les grandes gueules du sport.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.